bonsoir à tous et à toutes. Bienvenue à cette nouvelle édition de l'Aérospatiale en ce mardi 23 octobre 2012. Raymond Poirier au micro avec vous jusqu'à 18h30 pour parler art visuel. Ici, en remplacement de votre animatrice régulière, Julie Gagné, qui, comme elle l'a mentionné la semaine dernière, me part en congé prolongé. J'aurai le plaisir d'échanger le micro ici avec Jean-Pierre Gay, qui sera également avec vous au cours des prochaines semaines. Donc, à l'animation de votre magazine consacré aux arts visuels. Et évidemment, je ne suis pas seul ici. Il y a Jacques Gignac qui m'accompagne à la mise en onde. Et une belle émission pour vous, bien chargée, bien remplie. On explorera différentes expositions qui sont présentement en cours à Québec. Notamment, on ira faire une forêt vers la Galerie des arts visuels de l'Université Laval pour porter un regard sur l'exposition en duo de Samuel Breton et Patrick Sternon. Ils seront avec nous tout à l'heure. Également de passage, Catherine Plaisance pour nous parler de son exposition Infortune qui est présentée à Vue. Par ailleurs, cette fin de semaine et dans les semaines précédentes, il y a eu un gros événement à Québec, Extase, la vie et autres pratiques extatiques. C'était un événement organisé par Folie Culture. On en a parlé avant coup et maintenant on va revenir là-dessus après coup en compagnie de notre collaboratrice Fanny Hénon-Lévy qui sera avec nous en deuxième moitié d'émission. Alors tout ça et plus au fil de cette heure et également tout ça ponctué des sélections audio de Simon Roy qui est avec nous au bout du fil. Bonjour Simon.
Bonjour Raymond.
Ça va bien?
Ben oui, toujours.
Et Simon, en fait, cette semaine, tu nous amènes vers des rythmes créés par des artistes latinos.
Oui, c'est ça. C'est une drôle de collaboration, Raymond. C'est deux artistes qui se sont jamais vus. Donc, une collaboration à travers les internets. C'est Paulo Chagas, qui vient du Portugal, et Marcello Armani, qui vient du Brésil. Donc, Paulo Chagas joue du saxophone alto et soprano, du hautbois, de la flûte. Puis Marcello Armani, lui, est au drum et percussion. Donc, la façon qu'ils ont procédé, c'est que Marcello Armani a installé son drum à l'extérieur, chez lui, puis a joué différentes improvisations inspirées par le paysage. Puis Paulo Chagas, après ça, a mis de la musique par-dessus. Donc, je trouvais que c'était un concept vraiment intéressant. C'est pas strictement parlé en art audio, c'est plus, ça pourrait plus se rapprocher du free jazz.
Et le fait qu'ils aient travaillé comme ça à distance, est-ce que ça enlève de la cohérence au produit fini ou au contraire, ça lui donne une saveur, une couleur particulière?
Ça donne une couleur particulière. Des fois, on peut entendre un peu le vent autour des percussions. Puis, c'est vraiment, on dirait que les deux artistes étaient dans le même lieu. C'est vraiment incroyable. Vraiment une drôle de collaboration pour des artistes qui se sont jamais rencontrés. On pourrait pas le savoir juste à l'écoute.
Et on voit que c'est dans le concept parce que subitement, je viens de comprendre le titre de l'album qui, est, en fait, c'est approximativement 9363 kilomètres. Mais voilà.
Et c'est ça. Et c'est 158 megs. Donc, j'imagine que c'est la taille des fichiers qui ont été échangés pour cette collaboration-là.
Et les pièces qu'on va entendre, peux-tu nous les présenter de manière générale?
Ben c'est ça. J'ai pas vraiment d'autres commentaires à dire que ça se rapproche du free jazz. Instrument avant avec percussion. Je vais laisser les auditeurs le découvrir. Faut mentionner aussi que sur le blog de l'émission, comme d'habitude, on peut voir sur le lien en téléchargeant l'album, on peut voir les vidéos de Marcello Armani en train de s'exécuter sur son drum. Donc, c'est peut-être à voir pour les auditeurs.
Alors, comme tu le mentionnais, la meilleure manière de l'écrire, c'est probablement d'en écouter. Alors, je te remercie tout de suite, Simon, et je rappelle aux auditeurs, il y a toujours Web Musique les dimanches à 21h.
Oui, on est toujours là pour plein de bonne musique gratuite.
Et nous, on se dit à la semaine prochaine.
Oui.
Et on découvre ça par les oreilles avec un premier extrait, Primera Vista, donc tiré de cet album dont vient de nous parler Simon Roy, ici à CKRL. Thank you. Et donc voilà, premier extrait donc de cet album, approximativement 9363 km et 158 megs de Paolo Chagas et Marcello Armani. On en entendra d'autres au cours de l'émission et ce sera surveillé également sur le blog l'aérospatiale.wordpress.com pour aller télécharger les extraits qu'on vous fait entendre, puisque fidèle à son habitude, Simon Roy nous propose des éléments disponibles en téléchargement gratuit. Quelques actualités dans le cadre de notre revue de presse Art Visuel, notamment fait pas seulement au Québec où il y a des controverses autour de l'intégration d'œuvres d'art à la trame urbaine, surtout quand les sujets de ces œuvres peuvent soulever quelques questions et interrogations. Et notamment, il y a une ville européenne qui s'appelle Ifracombe qui présente une œuvre qui s'appelle Verity, une œuvre d'un artiste extrêmement populaire qui s'appelle Damien Hirst. Elle est installée à la mi-octobre dans le port de la petite ville d'Angleterre, mais déjà beaucoup de protestations, 200 lettres. L'œuvre, en fait, qui présente une jeune femme qui est adorable d'un côté et de l'autre côté dont on découvre le squelette, la chair et également un fœtus qui est en gestation dans son ventre. Donc ça a amené des gens à dire, ben regardez, c'est inacceptable comme sujet, ça dénature le port de la ville. De son côté, l'artiste lui dit que son œuvre est une allégorie contemporaine de la justice et de la vérité. Alors beaucoup de débats et certains donc partage d'opinions de ce côté. Donc un article qu'on peut découvrir dans Libération. Également, en fait, une saga, si on peut dire, au niveau d'une œuvre d'art qui a été retrouvée après 42 ans, une toile de Roy Lichtenstein. 42 ans après sa disparition, beaucoup de péripéties entre les années 70 et aujourd'hui. C'est une œuvre qui s'appelle Electric Cord, datée de 61, estimée aujourd'hui à 4 millions de dollars, qui avait été achetée peu après sa création par le galeriste Leo Castelli, qui l'avait envoyé en janvier 70 à un restaurateur pour, évidemment, restauration. Le tableau a été perdu par la suite et selon l'enquête, ben semble-t-il qu'il y aurait une galerie de Bogota en Colombie qui a affirmé l'avoir reçu des mains de la veuve du restaurateur qui évidemment n'avait pas complété son travail à l'époque. Finalement, découvrant que l'œuvre était portée disparue, ben elle a choisi de la restituer. Alors voilà, petite histoire à saveur presque policière autour de ça. Sinon, on parle sporadiquement ici à l'aérospatiale d'éléments quant au financement. Donc des galeries, des musées et autres, et de plus en plus il y a différents moyens qui sont mis de l'avant pour promouvoir et mousser des campagnes de dons, des campagnes de financement. Et notamment à Tokyo, il y a le palais de Tokyo donc qui a proposé une idée qui est original pour le milieu des arts, mais qu'on voit beaucoup dans d'autres domaines, en fait notamment autour des guignolés et autres. On voit souvent, exemple, des journalistes dire, ben regardez, moi je propose aux gens de venir passer une fin de semaine avec moi sur mon lieu de travail, dans le cadre de mon travail, d'aller prendre un verre avec moi, un café, voir un spectacle, etc. Eh ben, il y a des artistes donc qui ont participé à une initiative similaire à celle-là, donc aller boire un thé avec un photographe renommé, aller découvrir des recettes et explorer donc l'univers culinaire d'un artiste, visiter son atelier, visiter l'atelier d'un artiste, etc., etc. Donc, c'est une idée vraiment d'aller chercher un certain financement. Et au final, là, on était chercher quand même des bons montants d'argent avec ça, 90 000 euros, donc près de 120 000 dollars là, qui ont été récoltés par cette campagne. Bon, originale. Est-ce que c'est pertinent, ce type de campagne-là? C'est l'autre question qui est sous-jacente peut-être à tout ça, et je vous la lance. Se tient ce soir à l'aérospatiale. Sinon, cette année encore, donc classement de Art Review, le Power 1000, si on dit en anglais, du milieu des arts visuels. Cette année, en fait, ils ont choisi de couronner la directrice artistique de la 16e Biennale de Sydney en 2008, commissaire d'exposition, chef de musée d'art contemporain de Turin, écrivaine, etc. Donc, Caroline Christophe Barkagiev, comme personnalité la plus influente du monde des arts et du marché de l'art à l'international. Alors, on revient évidemment sur d'autres figures qui ont marqué le milieu de l'art au niveau commercial cette année. Un article qu'on retrouve dans le Journal des Arts. Et évidemment, comme tous les articles d'ailleurs que je mentionne, eh bien, les liens seront disponibles un peu plus tard aujourd'hui ou sinon au plus tard demain matin sur le blog de l'aérospatiale, l'aérospatiale.wordpress.com. Et en terminant, Artext qui honore Christine Ross en lui remettant le prix Artext de la recherche en art contemporain. Donc, c'est une historienne de l'art, professeure titulaire de la chaire James McGill en histoire de l'art contemporain à l'Université McGill de Montréal, qui reçoit ce prix. Donc, l'objectif d'Artex, c'est de reconnaître la contribution de chercheurs à l'évolution du domaine des arts. Et Mme Ross travaille notamment sur la réalité augmentée en art visuel, sur la culture visuelle en général, les relations entre les médias, l'esthétique, la subjectivité. Alors, on joue avec les sciences cognitives, la neuroscience également dans ces recherches-là. Tout ça, donc, autour, évidemment, de l'idée de la représentation. Alors, voilà pour la revue de presse et on repart en pause audio. Un autre extrait, donc, de cette œuvre, approximativement 2363 kilomètres de Paulo Chagas et Marcello Armani. On écoute à Entrega do Envelope. Toujours à l'aérospatiale, ici à CKRL, et on va maintenant vers la Galerie des arts visuels de l'Université Laval jusqu'au 18 novembre. Vous pouvez y voir une exposition en duo de Samuel Breton et Patrick Sternon. Et pour nous présenter cette exposition-là qui regroupe essentiellement donc 6 grandes toiles ou grandes pièces, pourrait-on dire, puisque quand même aussi mixité de techniques, de genre et de style. Alors, pour nous la présenter, cette exposition-là, on est en compagnie des deux artistes. Patrick Sternon, bonjour.
Bonjour.
Samuel Breton, bonjour.
Bonjour.
Et j'imagine en fait que l'alliance, si on peut dire, pour cette exposition-là est venue à l'initiative de la Galerie des arts visuels. Est-ce que vous avez l'impression, quand on vous a dit que vous exposeriez ensemble, que parenté justement, qu'il y a des ponts à faire entre votre travail, entre vos démarches?
En effet, principalement, c'est le collage comme étant la base de nos œuvres, la stratégie créative, si on veut. Et principalement aussi, on fait de la peinture. Donc, c'est vraiment les deux éléments principaux pour Patrick.
Ben oui. Absolument. Donc, c'est vraiment les rapports de disparité entre, de disparité iconographique, somme toute. Corrige-moi si je dis n'importe quoi, Samuel. Qui est un peu la base. Tu parlais de stratégie, c'est vraiment les fondements. Mais ce qui est intéressant, justement, c'est qu'on a un rapport, justement, à la disparité, à l'hétérogénéité qui est justement différent. Et en soi, il y a des rapports hétérogènes entre nos deux pratiques, justement.
Je pense, en fait, le terme collage et la mixité de techniques, c'est probablement la première chose qui saute aux yeux dans vos toiles. On le voit, en fait, du côté de Patrick Sternon, des éléments très naturalistes qui sont adjoints à des éléments vraiment plus sketch, croquis, différents types de traits. C'est la même chose aussi du côté de Samuel Breton, où encore là, il y a des éléments très naturalistes, il y a des éléments qui s'apparentent aussi au croquis. Qu'est-ce qui fait justement que vous aimez ce métissage peut-être des techniques ou des approches visuelles? Peut-être je lancerai la question à Patrick.
Oui, c'est une très très bonne question en fait. Je ne saurais pas dire, en fait c'est tout naturel, c'est vraiment, ça a été induit beaucoup par, je dirais, les influences, grosso modo, le milieu culturel. Oui, en fait la peinture, je dirais que mon approche de la peinture ressemble, est quand même, ce que je fais, on le voit pas, c'est pas quelque chose qu'on voit souvent dans le milieu, en fait. J'ai une approche toute personnelle, justement. Je parle tout à l'heure d'hétérogénéité iconographique, mais là, je parle aussi d'hétérogénéité formelle. J'ai une approche vraiment toute personnelle qui est justement en rupture avec, je pense, le reste des approches picturales que je vois autour de moi. Ça reste quand même infléchi par, justement, j'ai pas inventé l'hétérogénéité en peinture. Ça vient des années 80, selon mon interprétation toute personnelle de l'histoire de l'art, mais je pense que ça rejoint celle de beaucoup de gens. Ça vient de l'époque des années 80, où il y avait comme une réhabilitation de la peinture, justement. Et les rapports d'hétérogénéité ont vraiment participé à cette réhabilitation de la peinture. Et ça se poursuit, je sais pas pourquoi, encore aujourd'hui. C'est peut-être cette affluence d'images, c'est un cliché de parler de ça, là, mais cette affluence d'images dans les médias, on est bombardé d'images à nos jours. Vous aurez probablement vu, mais même à l'âge de 15 ans, vous aviez vu plus d'images que Michel-Ange à la fin de sa vie, qui est mort à 80... Bon, des historiens de l'art me corrigeront encore, mais je pense qu'il est mort vers l'âge de 90 ans, donc il a une longue vie. Donc
vraiment, côté hétérogène, jouer un peu avec les images, la quantité d'images, est-ce que c'est quelque chose de similaire qui vous a amené vers cette piste-là, Samuel Breton, ou vous, c'est vraiment autre chose qui vous a amené à justement préconiser un peu ce métissage-là?
Je parlais d'une stratégie de création tantôt. Cette stratégie-là, si on veut, je suis un genre de dessinateur d'observation, mais médiatisé. Médiatisé dans le sens où ce que je consomme, mettons, le cinéma, je regarde des vieux films de Godard et je dessine à partir de ces films-là. Le média se trouve à être entre moi et mon dessin d'observation. J'observe pas particulièrement la nature, j'observe vraiment notre culture visuelle. Et c'est là que la manière que j'observe la culture s'établit dans le temps. Et je dessine un élément, je vais dessiner un vêtement, je vais dessiner une architecture, et c'est cette manière-là d'observer et par étapes et donne une image qui est composée en collage, donne une image qui est structurée, si on veut, qui se structure dans le temps. Je sais pas trop.
Oui, puis en même temps, il y a des éléments aussi pour que les auditeurs auditrices puissent se figurer. Il y a les éléments qui transcendent aussi ou qui sortent d'une époque à l'autre. Il y a des éléments qui sont presque issus des années 60, d'autres qui sont très actuels. On duplique donc des images donc des années 60. T'as par exemple le play qu'on pourrait retrouver sur un iPod.
Exactement. Le sigle lecture qui devient dans l'œuvre Doublure Générale, qui est vraiment issu de références cinématographiques, clairement français, clairement également, peut-être moins clair, mais Sergio Leone. Et donc, autant l'image semble être vraiment issue des années 60, vraiment vieillot et vraiment cinématographique, autant tout d'un coup, il y a le sigle lecture qui est additionné à cette image-là et qui nous oblige à constater que cette image provient du présent. Parce que ce sigle lecture-là est vraiment, se retrouve abondamment sur les sites de diffusion vidéographique d'aujourd'hui sur Internet.
Donc, ça nous amène à changer le contexte d'observation, à changer l'analyse de la lecture qu'on ferait initialement de l'œuvre si cet élément-là n'était pas là.
Exact. Et de comprendre que finalement, moi, la manière que je consomme ces images cinématographiques-là est vraiment différente que quelqu'un qui les aurait consommées dans les années 60. Je suis pas en train de dessiner dans la salle de cinéma conventionnelle. Moi, je suis devant mon ordinateur, je suis sur Internet et je cherche mes fragments de cinéma. Et donc, vraiment un rapport contemporain à ce cinéma-là.
Et ce qui est plaisant, justement, dans ce qu'on découvre à la Galerie des arts visuels, c'est vraiment aussi des modes de lecture, de regard, d'observation. Il y a des divisions aussi, peut-être même, de l'espace qui sont présentes. On parlait de l'aspect collage chez Samuel, notamment, et aussi chez Patrick Sternon, où, dans le fond, c'est des masses qui sont occupées, donc des masses, parfois à forme géométrique, rectangulaire. Dans une des œuvres, vous occupez principalement le pourtour de l'œuvre, et le centre est laissé à, essentiellement, un élément coloré qui fait référence au styrofoam. On s'amuse donc à organiser comme ça son occupation de l'espace. Pourquoi, comment, qu'est-ce qu'on veut faire ressortir de ça?
Mais je trouve ça très intéressant que vous me parliez de, je le dis en mes mots, de rupture, c'est ma formule à moi. Vous me soulignez tout à l'heure, d'ailleurs, que vous trouviez que justement il y avait des masses, des ruptures plus fortes. J'utilise le hard edge et tout ça. Ceci dit, je trouve que mes compositions sont vraiment plus harmonisées en ce sens, pas plus harmonieuses, on s'entend bien, mais plus harmonisées que celle de Samuel, si je compare les deux espaces, les deux compositions. Ouais, c'est assez. En fait, c'est très. Ça m'étonne quand même pas mal. Je trouve ça très intéressant qu'on me dise ça parce que c'était vraiment ça que je recherchais au départ. J'ai toujours trouvé que mes compositions étaient justement trop harmonisées selon mes objectifs. Mon but, c'était vraiment d'évacuer un peu ou le plus possible le souci de la composition dans la création. Et c'est un peu dans une recherche de rupture, de disparité, d'hétérogénéité vraiment pure, qui était un peu chimérique en soi, parce que ça n'existe pas l'hétérogénéité pure en peinture.
Et donc ça change, encore là on parlait de lecture tout à l'heure, mais on passe par exemple d'une des toiles où d'un côté il y a donc un interrupteur très naturaliste, on le mentionnait tout à l'heure, à, au côté d'autres éléments qui font référence à la lumière, mais beaucoup plus en croquis, beaucoup plus libre, donc une pièce très ferme, une autre plus libre, donc c'est il y a un élément de lecture, en fait, il y a la notion de tout, mais quand on passe d'une section à l'autre, il y a vraiment, vous parlez de rupture, la rupture est claire et nette et définie dans celle-là.
Oui, dans cette toile-là en particulier, j'ai vraiment voulu m'imposer ça, évacuer vraiment le souci de la composition le plus possible. J'y suis pas parvenu réellement en réalité, parce que si on observe bien, j'ai vraiment intégré chacun des éléments, les vis de l'interrupteur par exemple, l'interrupteur lui-même, dans justement un ensemble, une composition. Donc j'ai intégré l'interrupteur, la représentation de l'interrupteur lui-même dans un rapport avec l'autre partie, même s'il divise complètement l'espace en deux, le scinde en deux, puis vraiment je divise l'espace en deux moitiés égales, carrément. Donc, j'accuse les limites de la toile de cette façon-là. C'est assez... Ben, on garde les proportions de l'interrupteur, bien sûr. Il y a un rapport d'échelle, bien sûr, qui est bien sûr différent, là. Un rapport d'échelle, je parle d'un interrupteur, un objet tout petit qui est reproduit aux dimensions de la toile elle-même. Et donc, ça fait que, effectivement, je me retrouve dans des rapports finalement d'hétérogénéité et en même temps de fusion avec le subjectif.
Et dans ça, en fait, on parle aussi d'éléments de composition. Je fais le saut vers Samuel Breton. Dans la mixité, au-delà de la peinture, on rajoute l'autre élément. On parlait de ce plaid, par exemple. Il y a une autre toile qui est beaucoup plus à saveur historique, où on retrouve des images, une image d'archives. Et ces éléments-là sont apportés par la projection. Donc, vraiment, sont internes, sont intégrés dans la composition, mais sont externes à la toile. Pourquoi cette approche-là?
Cette interaction entre l'image fixe et l'image animée,
exactement,
qui se trouve être ma grande problématique. La peinture en soi présente des collages, différentes scènes qui semblent très harmonieuses, et finalement, l'ultime collage devient cette projection-là qui est le temps. Une projection qui fait plus référence à l'aujourd'hui. Encore une fois, oui, le play, il pulse comme les plays qu'on peut voir sur les sigles de lecture qu'on peut voir sur Internet, mais dans l'autre toile qui est Le Lion, la Veuve et Truman, on a une tête de lion qui est bien modelée en peinture, à côté d'un visage de vieille dame qui semble, si on regarde bien la peinture, ce n'est que les traits qui sont peints, mais sinon l'intérieur, les masses, c'est complètement c'est presque vide, mais c'est vide pour laisser apparaître, grâce à la projection, l'image de référence. Et tout d'un coup, cette vieille-là prend ses rides, prend son expression qui était, si on veut, d'origine. Et tout ça est comme additionné à la scène de rue très sombre de pluie, qui, moi, je sais exactement d'où vient la référence, et ça vient vraiment de l'élection de Truman. Truman qui est élu, les gens s'attroupent dans la rue, et le photographe prend cette vue de l'élection de Truman. Moi, je l'intègre dans ma toile, et finalement, je superpose à cette toile-là une lecture qui est fondamentalement politique. Si, au premier regard, quand on regarde Le Lion, la Veuve et Truman, on ne voit qu'une belle tête de lion très humanisée, une vieille dame les yeux fermés et une scène de nuit qui est superposée à tout ça. Et tout d'un coup, quand on met les écouteurs sur nos oreilles, étant donné que Truman nous parle de communisme et de démocratie, un speech presque fondateur de la guerre froide, cette image-là semble donc politique. Mm-hmm. Mais ce n'est qu'un collage. C'est l'addition des différents collages crée cette magie-là. J'additionne un propos politique, mais finalement, ce propos politique-là est absent de l'image. Et pourtant, elle, grâce à l'audio, il devient très présent.
Oui, même en fait, essentiel à la compréhension, au bout du compte, de l'image complète qui, séparée ou les éléments séparés, on serait incapable d'avoir une lecture complète, dans le fond, de ce que vous nous proposez.
Oui, oui, oui. En effet.
Et peut-être en terminant, puisqu'on parle d'éléments aussi de composition, d'éléments référentiels, en une minute, Patrick Sternon, à la précédente exposition que vous aviez faite, qui avait roulé notamment du côté du Saguenay, il y avait beaucoup d'éléments référentiels, ces concours d'espace, on jouait un peu avec différentes références à l'histoire de l'art. Dans une des toiles, il me semblait avoir une référence à Judith et Holofernes.
Oui.
Est-ce qu'on joue encore avec l'aspect référentiel dans ce que vous présentez à la Galerie des arts visuels?
Ben, en fait, bon... tout ce qui est narration, icône, de mon côté, c'est un peu le contraire de Sam. Samuel, il contrôle la signifiance des icônes, des figurations. Et ça, c'est quelque chose que j'admire quand même chez lui. Moi, c'est le contraire. C'est purement inconscient. Et quand je fais des citations de l'histoire de l'art, j'ai pas du tout l'intention qu'on les reconnaisse forcément. Et ça m'a beaucoup impressionné que vous ayez reconnu Judith et Holofernes, justement. Souvent, les gens, en regardant ça, étonnamment, me parlent des Ménines de Velázquez parce que c'est la citation parfaite, la citation par excellence de l'histoire de l'art. Mais ils sentent qu'il y a une citation, ils savent pas quoi. Et c'est précisément ça que je veux. Donc, je voulais pas que vous deviniez forcément que c'était Judith et Holofernes. Je voulais brouiller cette citation-là pour laisser une impression de déjà-vu. Et c'est ce déjà-vu-là dans les icônes que je recherche.
Alors, en fait, vraiment, des œuvres à découvrir, à aller lire, à aller profiter. On vous en parle, mais évidemment, c'est sur place qu'on découvre donc la richesse de ce que vous nous proposez, de ce que vous nous expliquez aujourd'hui. Alors, je le rappelle, c'est à la Galerie des arts visuels de l'Université Laval, donc dans l'édifice La Fabrique sur le boulevard Charest. C'est jusqu'au 18 novembre prochain. Donc, Samuel Breton, Patrick Sternon, merci beaucoup à vous deux.
Merci à vous.
Et nous, on prend une courte pause. On est de retour tout de suite après, toujours ici sur les ondes du 89.1 CKRL.
Le 9 novembre, le Cercle fête son 5e anniversaire. Une soirée à temps multiple à l'image du Cercle. Serez-vous dans un resto, une salle de spectacle, une galerie d'art, dans une installation immersive ou tout simplement dans un lieu où il fait bon vivre et échanger? Pour le savoir, rendez-vous au Cercle le 9 novembre et rejoignez la faune des artistes et DJ mettant en vedette Radio. Entrée 10$, venez vivre le tourbillon dès 18h. le-cercle.ca.
Burlesque vous invite au voyage. Burlesque, le cabaret burlesque de Québec, vous convie à son tout nouveau spectacle Burlesque autour du monde. Venez célébrer les feuillages coquins avec des numéros inédits qui vous feront visiter les destinations les plus exotiques du globe. Burlesque, près de 40 artistes multidisciplinaires de Québec. Sur scène le vendredi 9 novembre à l'Impérial, 21h. 418-523-3131 ou impérialdequebec.com.
Un spectacle unique en son genre. De l'improvisation théâtrale avec un allié de taille, le dessin. C'est l'Impro BD. À la Ligue québécoise d'Impro BD, auteurs de bandes dessinées et comédiens s'unissent pour offrir une soirée haute en couleurs. Première soirée, le 28 octobre, 20h. Entrée libre, contribution volontaire. Initiée par le Festival de la bande dessinée francophone de Québec, les soirées de la Ligue québécoise d'Impro BD sont présentées en partenariat avec le Cercle et CKRL. Dessin, jeux, musique, un événement hors du commun.
Conte de fées. Lorsqu'il écrivait des histoires de jungle, des éléphants, des girafes et des panthères s'entassaient dans sa chambre.
L'émission consacrée à la littérature jeunesse d'ici et d'ailleurs est animée par Olivia Bu.
Lorsqu'il écrivait une histoire de peur, des monstres épouvantables apparaissaient dans son placard.
Conte de fées dès 13h, tous les samedis sur les ondes de CKRL, vous est présenté par la librairie Pantoute et Studio P.
Pour que nos racines se prolongent dans le ciel de l'avenir, tous les mardis soirs à 18h30. Pour que nos racines se prolongent dans le ciel de l'avenir, tous les mardis soirs à 18h30. Au programme musique trad faux contemporain, douze de tous les temps pour votre plus grand agrément. En compagnie de Gilles Chaumel sur les ondes de CKRL.
Cette soirée vous est présentée grâce à la participation du Bal du Lézard. Le Bal du Lézard, 1049 3e Avenue à Limoilou. Le Bal, 26 ans de Limoilou libre. Lebaldulezard.com.
Vous écoutez CKRL 89.1, Québec.
Vous êtes toujours à l'écoute de l'aérospatiale. Raymond Poirier au micro jusqu'à 18h30, toujours en compagnie de Jacques Gignac à la mise en onde. Et remerciements également à Julie Gagné pour la recherche autour de cette édition, donc de votre magazine dédié aux arts visuels. On vous rappelle d'ailleurs que vous pouvez nous suivre via le site de socialisation Facebook. En cherchant l'aérospatiale, vous devriez nous trouver. Et maintenant, enfin, on vous a parlé la semaine dernière, donc en avant-goût, d'un événement qui s'appelle Extase, la vie et autres pratiques extatiques, voilà, organisé par Folie Culture, une multitude d'événements, d'activités, d'expositions. Et il y a notre collaboratrice Fanny Hénon-Lévy qui a été explorer justement cet événement et qui vient nous en offrir un compte-rendu impressionniste, pourrait-on dire. Fanny, bonjour.
Allô?
Ça va bien?
Oui, et toi?
Ça va très bien. C'était un gros événement, en fait. Ce qui est encore en cours, il y a des expositions qui sont à l'affiche jusqu'à encore pour quelques semaines. C'est une programmation extrêmement riche, là.
C'est un événement multidisciplinaire, c'est clair, avec des conférences qui se sont tenues cette fin de semaine, avec multiples expositions, dont une au local qui était rue Saint-Joseph, une autre à l'œil de poisson dans les deux galeries, la petite galerie et la grande, également avec la plug vidéo à l'extérieur de l'œil de poisson, et à Engram également. Moi, j'ai choisi là de parler des événements qui coup de cœur. Mon grand coup de cœur, je dois l'avouer, c'est à l'œil de poisson, à la petite galerie que je l'ai eu. C'est Frédéric Laliberté qui m'a étonné par son accumulation, sa folie. Elle a une installation qui s'appelle, même son nom est complètement flyé, ça s'appelle Ali Go Fuck Yourself Baba, qui représente pas vraiment ce qu'est l'installation elle-même. C'est une installation d'objets qu'elle accumule depuis des années. Elle-même est une grande j'ai pas envie de dire collectionneuse, c'est presque de la maniaco collection.
Ouais, le syndrome de Diogène et autres.
Elle est complètement attirée par les objets aussi banals que des petits bouts de papier, des petits bouts de plastique, les cartes, des cartes d'anniversaire, ça va une quantité impressionnante d'objets. Et ce qui est fascinant et ce qui moi m'a vraiment mis en tant que spectatrice dans une situation d'extase, parce que l'extase c'est être en dehors de soi-même, si on prend littéralement la définition de l'extase, c'est son énumération qui dure une heure et demie d'objets soigneusement numérotés, soigneusement répertoriés. Ça va du petit bout de papier où il y a une petite inscription, un petit mémo.
Ça vient vraiment mettre en contexte ou apporter un contexte additionnel à l'accumulation d'objets qu'on découvre.
Complètement, mais au-delà de ça, ça met une trame sonore qui t'hypnotise complètement. Mm-hmm. Tu rentres dans une transe, tu le dis qu'elle-même, en tant qu'artiste, elle est rentrée dans une transe incroyable avec cette énumération-là. Et puis, ça vient inévitablement critiquer notre société de consommation qui nous fait accumuler comme ça des espèces de choses. On s'accroche, notre mémoire affective s'accroche.
On fait des listes, on accumule, on sait plus où mettre et le reste. Donc,
ouais,
au bout de compte.
On veut pas les jeter. On les jette pas. À la Grand Galerie, y a une installation de Marie-André Cormier qui s'appelle Sud-Est-Nord-Ouest, qui est intéressant, qui est beaucoup plus méditative, un peu plus contemplative aussi, mais qui est aussi intéressante, peut-être un tout petit peu moins reliée au thème, mais l'installation elle-même est quand même, c'est une installation vidéo avec un espèce de grand bloc qui prend tout l'espace. Et là, entre autres, sur le côté, on rentre dans la vie de personnages qui sont complètement à une activité quotidienne, un pliage de carton, un dépliage de carton, et ça recommence, et ça recommence, et ça recommence. Et on rentre, ils sont un peu, on les voit un peu comme dans un laboratoire. Et finalement, nous, dans nos petits espaces, si on nous regarde de l'extérieur, on fonctionne un peu comme des petites souris avec nos gestes quotidiens, avec nos manies, vraiment le côté maniaque qu'on peut avoir aussi dans nos quotidiens. Donc ça, je trouvais ça intéressant. Et puis un gros clin d'œil à la boîte à cris que j'ai trouvé extraordinaire dans le jardin Saroc, et qui est une installation très très simple de chez Lani Baudin Quintin, qui est juste une boîte, une grande boîte. Vous rentrez dedans et vous pouvez crier, vous défouler dans un espace urbain où le cri n'est pas autorisé, où la folie n'est plus autorisée. On essaye de nous
mettre en boîte, hein, mais
on nous formate, là on est formaté pour justement rester calme et pas laisser place à la folie.
Exactement, tout sentiment qui sort de la norme est un peu refusé. Alors là on nous dit, ben regardez, vous avez envie de sortir de la norme, d'exprimer une détresse quelconque, et ben il y a un lieu privé pour le faire. En même temps, ça nous fait réaliser justement qu'on a presque besoin de lieux privés comme ça pour publiquement pouvoir exprimer des émotions intenses, là.
Puis parallèlement, ça nous fait réaliser que on peut pas crier en public.
Non, vraiment pas.
On apprend aux enfants à ne pas crier. Chut, ne crie pas. Donc cette exposition, pour vraiment synthétiser, à l'œil de poisson, vous pourrez aller la voir jusqu'au 18 novembre. Allez la voir. Les capsules vidéo sont fascinantes. Elles sont il y a des choses, il y a des briques à broc, il y a une minute vidéo, puis des vidéos qui sont tournées autour de l'extase avec des artistes vidéo professionnels et d'autres qui le sont un peu moins, un peu plus amateurs. Donc c'est quand même assez intéressant, cet alliage. Et puis globalement, extase, la vie et autres pratiques extatiques, c'était quand même une belle réflexion sur notre société, sur nous-mêmes, bien au-delà de la folie. On a tous individuellement et très personnellement un sens de la folie. Parfois refoulé.
donc c'est venu, les thématiques proposées, la manière dont les artistes ont choisi de les exprimer, c'est venu, de ce que j'en comprends, quand même venir de chercher. Ça t'a inspiré aussi, Fanny, un peu?
Je dois avouer que c'est quand même un thème qui se veut très ambitieux, et que ça prend quand même une énergie. Ça prend quand même une force pour aller soutenir un thème comme ça. On sait qu'il y a eu des performances aussi au travers de ça. Je dois souligner la performance de José Landry-Sirois également, qui au local a fait une performance qui a duré trois jours. Ils ont appelé ça intervention directe, mais il s'agit réellement d'une performance. Il s'agissait de tracer, d'écrire un mot en continu, répéter en public, de manière à créer une forme. Mais bon, elle est partie, elle l'a dit elle-même, elle a parlé de son intervention, et elle disait je suis rentrée moi-même dans un état de transe. Donc ça, c'est intéressant. Là, quand l'artiste lui-même, le résultat est pas probant, il aurait fallu peut-être que ça dure, c'est que ça s'étire sur trois jours, mais la démarche elle-même est vraiment intéressante.
Effectivement, de se mettre dans un contexte. En même temps, pour José Landry-Sirois, ça fait référence un peu à des travaux qu'elle fait, qu'on a vu donc sur papier et autres. Donc c'est une extension un peu aussi de certains pans de son approche visuelle, il me semble.
Elle a une pratique de dessin très forte, mais là, elle l'a dit elle-même, j'ai trouvé une manière de dessiner. Elle a pris ce mot oui, qu'elle a étiré à l'extrême sur ces 3 jours, et elle l'a dit via ce mot-là, je suis sortie de moi. Et donc ça, je trouve ça, j'ai trouvé ça pertinent, j'ai trouvé ça intéressant.
Et sinon, il y avait aussi à Engram où on pouvait aller chercher des œuvres Extase emportée, qui était aussi intéressant dans la relation, je trouve, entre le spectateur, l'observateur et l'artiste, où on peut partir carrément avec ce qu'on apprécie.
Oui, j'ai trouvé l'installation un peu plus faible. Par contre, les œuvres étaient c'était inégal, mais finalement, ce qui était intéressant à retenir, effectivement, c'est proposer des œuvres, j'ai envie de dire jetables, libre service. Et ça, effectivement, ça, c'est pas quelque chose auquel on est habitué. L'œuvre d'art est marchande.
Alors, en fait, un événement à découvrir, des ramifications en fait qui se poursuivent. Donc, ça vaut la peine, selon toi, d'aller faire un tour à tout le moins à l'œil de poisson, d'aller voir ce qui est toujours en cours.
Oui. Oui.
Alors, ben, Fanny et non Lévy, merci.
Merci à toi.
Et on se dit à bientôt.
Oui, à très bientôt.
Et nous, on repart en pause audio, toujours suggestion de Simon Roy. Donc, cet album, approximativement 9363 km et 153 meg, ou avec donc la pièce « O Ronco de Industria Pesada ». Alors, toujours à l'aérospatiale, avec vous jusqu'à 18h30. Et maintenant, on va aller du côté de Vue, où jusqu'au 11 novembre prochain, présenter Infortune. On pourrait dire une installation qui allie donc vidéo, maquette et photographie. Donc, c'est une œuvre de Catherine Plaisance qui est avec nous au bout du fil. Bonjour.
Bonjour.
Alors, en fait, l'idée des accidents, des infortunes, d'ailleurs, qu'on voit présent dans votre œuvre et dans votre art depuis déjà plusieurs années, je crois depuis le début des années 2000-2004, oui, qu'on retrouve une nouvelle fois avec donc Infortune, justement. Qu'est-ce qui vous a donné l'idée, justement, de ces incidents, de ces infortunes, de cette idée de catastrophe dans votre exploration?
Ben oui, comme vous dites, ça fait un moment que je travaille cette thématique-là. C'est un peu lié à une observation Donc dans les médias, en fait, je m'intéresse un peu à l'image de presse et puis particulièrement aux images de catastrophes puis à la manière que le média peut traiter cette image-là, en particulier aussi les images de guerre. Donc je me suis penchée à regarder comment une seule image peut devenir l'événement, en fait, en évacuant comme tout le hors-champ et toute la situation au complet. Donc on peut penser aux images de la guerre du Vietnam ou à d'autres images fortes qui viennent à nous. Parfois, l'événement est complètement évacué, puis il y a une seule image qui fait histoire, qui fait le récit, et puis qui reste. Puis ces images fortes-là m'ont interpellée, puis je me suis donc intéressée après un peu à l'esthétique de la catastrophe, au tourisme de catastrophe aussi, à tous ces phénomènes-là où on est un peu voyeur d'un événement.
Et j'ai l'impression, en fait, vous pourrez me corriger, qu'avec Infortune, on s'intéresse beaucoup à la temporalité peut-être de cette catastrophe-là dans le dialogue entre justement la maquette, la vidéo et la photo, où on essaie de recomposer la narration au bout du compte, pour parfois se rendre compte, bon, qu'il y a une narration impossible ou improbable aussi, mais on joue avec cet aspect-là.
Oui, c'est ça, parce qu'en fait, il y a trois et même plusieurs temporalités, plus que trois temporalités différentes, parce que dans les photographies, donc il y a l'événement qui est sur le point de se produire, parfois il y a l'événement qui s'est produit clairement, puis il y a comme un état aussi qui est latent d'un événement qui, bon, on ne sait pas trop si ça s'est produit ou ça va se produire. Ensuite, la vidéo, elle, de son côté, c'est clairement un incident, une catastrophe naturelle ou un ouragan qui s'est déroulé, et puis la caméra se promène dans ce paysage miniaturisé-là, puis nous donne l'impression d'être le marcheur qui reviendrait sur le terrain après un événement, puis qui fouille un peu au travers des débris pour essayer de retrouver quelque chose qui lui rappellerait le territoire. Et puis la maquette, elle, au contraire, est comme nettoyée. Donc il n'y a plus de drame. Les drames sont pas présents pour le regardeur sur la maquette. Les drames sont seulement en photographie et en vidéo. Donc la maquette, c'est ça, complètement propre. Donc on ne sait pas si c'est avant l'événement ou plusieurs années après reconstruction. Donc il y a comme un jeu comme ça de temporalité, puis le spectateur est amené à se promener au travers des photographies, aller voir la vidéo, revenir sur la maquette pour un peu voir qu'est-ce qui a pu se passer. Donc il y a un peu de tromperie au niveau temporel, effectivement.
Oui, parce que vous utilisez d'ailleurs dans les notes qui accompagnent l'exposition le terme faussement narratif. On essaie de recomposer, mais c'est improbable que tout ça soit arrivé en même temps, au même lieu. Mm-hmm. C'est, des fois, les relations de cause à effet sont moins claires. Donc, il y a un jeu là-dessus, un jeu assez participatif, aussi assez actif pour, dans la relation entre l'œuvre et le spectateur.
Oui, il y a une forme d'interactivité, effectivement, dans l'exposition Infortune, justement par ces glissements-là. D'un médium à l'autre, parce que donc toutes les images qui sont produites, qui sont exposées, proviennent de la même source qui est la maquette, mais effectivement il y a un peu de la vie pris là au niveau de ce qu'on voit, puis donc c'est ça.
Ça permet aussi en même temps avec les photos, donc c'est vraiment enfin on nous renvoie un peu un rôle de voyeur, comme vous disiez, d'entrée de jeu. On joue un peu avec cette improbabilité là, puis en même temps on joue avec justement la compréhension du spectateur. Donc c'est vraiment, on nous lance sur des fausses pistes. Il y a vraiment cet aspect là aussi.
Oui, puis exactement, il y a aussi une grande le hors-champ prend beaucoup de place dans dans l'exposition. Donc dans les photos, surtout la vidéo aussi, parce que comme dans l'image de presse, comme je parlais en début d'entrevue, l'image de presse est souvent cadrée, fixée sur un sujet ou sur une part de situation, et puis tout le reste est un peu évacué, puis il faut soit aller chercher d'autres sources pour compléter ou se contenter de cette image-là qu'on reçoit. Mais dans les photographies, effectivement, il y a gros plan sur un sujet, et par les noirs aussi, parce qu'il y a beaucoup de noir assez dense dans les images et dans la vidéo aussi. Donc, il y a comme beaucoup de non-dits. La caméra vidéo, elle focus parce que c'est un éclairage à la lampe de poche très, très ciblé. Donc, on perd beaucoup d'informations, puis on découvre petit à petit donc c'est ça le territoire qui s'offre à nous. Fait, le hors-champ est très important dans cette exposition-là, puis ça provoque justement un peu de suspense aussi.
Mm-hmm. Oui, puis en même temps, j'aime bien aussi l'idée qu'on change de perspective selon ce qu'on regarde, dans la mesure où quand on observe la maquette, donc qui, comme vous le disiez, est libre de vie de gens, on est un peu des géants qui font cette observation-là. Mm-hmm. On se retrouve ensuite à la même échelle que notre réalité dans la vidéo, dans les photos, donc ça change aussi la lecture qu'on peut faire de cet environnement-là.
Oui, oui. Puis notre rapport au corps aussi, justement. Mm-hmm. Vous disiez qu'on est un peu comme un géant qui surplombe donc la maquette, mais effectivement, il y a un rapport au corps qui est intéressant, qui est fort, surtout dans la vidéo, d'après moi, parce qu'on a, avec le son, la trame sonore qui nous amène, on a l'impression d'être vraiment inclus dans l'image, puis au contraire, on se retourne de bord, puis on voit la maquette qui finalement est tellement, c'est tellement minuscule, donc le jeu d'échelle, il y a beaucoup ça dans l'ensemble de mon travail, en fait, un jeu avec l'échelle. Mm-hmm. La tromperie, puis aussi un rapport d'attraction, répulsion. Donc, de jouer avec un peu des codes de catastrophiques, mais dans une imagerie comme la maquette, la miniature, c'est vraiment une imagerie qui rappelle un peu l'enfance, qui rappelle le jeu. Donc, j'ai fait aussi une série d'aquarelles où l'aquarelle, qui est toute doucereuse, ben, est utilisée pour justement peindre des sujets dramatique. Donc, il y a toujours cette dualité-là là, de répulsion-attraction.
Et ça se transpose justement dans l'émotion qu'on peut avoir et dans le sentiment qui découle de l'ambiance, dans le fond, de tout ça, où on va chercher justement des éléments, comme vous dites, qui sont quotidiens, qui peuvent nous rappeler des souvenirs d'enfance et autres. On ajoute un côté tragique. Il y a les éléments d'échelle qui nous le font sortir, cet élément tragique-là, du contexte dans lequel normalement on le retrouverait. Donc, au bout du compte, on en ressort un peu ambigu. Et j'imagine que c'est voulu aussi, qu'on n'a pas une lecture qui est claire, mais on n'a pas une émotion qui est claire non plus, et ça nous questionne justement face à notre relation avec toute cette imagerie-là.
Oui, exactement. Oui, c'est ça, parce qu'il y a une grande part de visible, là, des choses qui sont visibles dans l'exposition. Il y a le vu, puis il y a l'imaginé aussi, donc à cause du hors-champ, justement, donc toute cette possibilité-là d'imaginer qu'est-ce qui a pu se dérouler. Donc, on est un peu toujours dans cet interstice-là de visible et d'imaginer.
Et dans les catastrophes, donc on le mentionnait, on y va avec des incidents plus quotidiens, on y va avec des grandes catastrophes, des éléments limite improbables aussi. Qu'est-ce qui amène vers ces choix spécifiques-là? Est-ce que c'est donc l'idée d'une représentation variée d'événements, de perspectives, de sentiments, ou est-ce qu'on explore un peu les drames qui pourraient...
Ça a été plus exploratoire en atelier. J'ai commencé donc par fabriquer la maquette, puis à me positionner dans certains petits raccoins de celle-ci pour essayer de voir bon qu'est-ce qui aurait bien pu se passer. Donc effectivement, il y a un éventail de possibilités d'incidents, mais c'est des incidents qui sont apparus au fur et à mesure du travail d'atelier, je dirais. Donc sans nécessairement avoir une idée préconçue, mais j'avais le goût de camper ça dans un territoire rural. Un paysage rural, puis c'est entre autres le lieu où j'ai grandi, donc c'est un lieu que j'ai reproduit en miniature, donc c'est un lieu qui était empreint de plein de souvenirs, de plein d'expériences aussi, je le connais par cœur, donc j'ai pas eu de difficulté à le reproduire en miniature, puis donc je trouvais que un milieu rural, agricole, c'était un bon lieu géographique où il pouvait se passer différentes, parce qu'il y a de l'eau, il y a du boisé, donc, il y a différentes possibilités.
Et en terminant, Catherine Plaisance, est-ce qu'il y a des ponts, j'imagine, aussi à faire entre ce que vous avez présenté un peu plus tôt cet automne à la bande vidéo?
Oui, exactement. Oui, ben en fait, c'est toujours le travail de miniature, c'est de mettre en image, puis de duper un peu le spectateur sur l'échelle. Et puis à la bande vidéo, donc c'était une maquette miniature qui tournait sur elle-même, la caméra était fixe devant, puis l'histoire se construisait comme un peu c'était un peu magique, là. L'histoire se construisait sans qu'il y ait de coupure dans l'image ou presque, avec toujours beaucoup de noir aussi, puis une ambiance assez intrigante, je dirais. Donc oui, il y a vraiment et puis c'est là-dedans que je me dirige aussi vers pour la suite là. Donc je pense que la miniature, puis ça permet tellement de possibilités, parce que c'est comme fabriquer un décor de cinéma, puis s'amuser dedans, puis c'est infini en fait comme possibilités. Donc c'est sûr que je vais continuer. Ça m'intéresse encore de travailler avec ces éléments-là.
Alors, on invite les gens à aller découvrir ce que vous proposez. Donc, à vue, je le rappelle, c'est jusqu'au 11 novembre. Ça s'appelle Infortune. Catherine Plaisance, merci beaucoup.
Merci à vous. Bonne soirée.
Bonne soirée. Et nous, là-dessus, on repart donc en pause audio, dernière de l'émission avec la pièce donc Anterios Pelicanus au Formiguerio. Et voilà, bref, extrait donc tiré de cet album Approximatamente, donc 9363 kilomètres de Paolo Chagas et Marcello Armani. Les liens seront disponibles pour téléchargement sur l'aérospatiale.wordpress.com. Et avant de terminer, petit regard sur le calendrier, notamment plusieurs vernissages à surveiller cette semaine, notamment jeudi 25 octobre à 17h, deuxième vernissage de la résidence de Karina Montenegro, c'est à la Chambre Blanche. Également vendredi 26, deux vernissages à prévoir. Le premier à 17h, c'est du côté d'Engram dans la coopérative Méduse. Ce sera le vernissage de l'exposition Estampas, Independencia et Revolución. Et à 19h, ensuite, on se transporte vers le lieu pour le vernissage de l'exposition Justice et Prudence de Baptiste de Montbourg. Également à signaler, dimanche 28 octobre au Musée national des Beaux-Arts, il y a l'heure du compte, c'est gratuit si vous avez des billets pour l'exposition Art et Nature au Moyen-Âge. C'est à 10h30. Et sinon, évidemment, plusieurs expositions qui se poursuivent à vue à la Chambre Blanche, au Musée national des Beaux-Arts, à la Maison Amel Bruno, chez La Certe, à l'Œil de Poisson, à la Galerie des Arts Visuels et également chez Binox avec cette exposition Géographie variable proposée par la Chambre Blanche. Alors, ben voilà, c'est ce qui termine l'émission de cette semaine. J'en profite évidemment pour remercier Julie Gagné, donc l'animatrice régulière qui a donné un coup de pouce à la recherche, Jacques Gignac, en ce qui concerne la mise en onde. Et je vous rappelle également que vous pouvez nous trouver sur Facebook, également par courriel, l'aérospatiale.ckrl@gmail.com. C'était Raymond Poirier au micro. Ça a été un plaisir d'être avec vous cette semaine et je vous dis à la semaine prochaine.